vous avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et il a aussi le ciré jaune aujourd'hui quand on voit le temps qu'il fait. Bonjour Philippe.
Bonjour Léo, bonjour à tous.
En forme, oui, quand même, pour aller au jardin. Malgré cette pluie, malgré ce mauvais temps, ça ne va pas nous empêcher d'y aller découvrir certaines choses. Ou peut-être même d'aller se balader en forêt. Je sais que c'est encore la saison des champignons. Vous en parlez assez régulièrement en cette période. C'est peut-être l'occasion d'aller faire un tour.
Oui, alors faut pas négliger non plus de s'occuper un peu de son jardin, c'est-à-dire de le préparer pour l'hiver. Hein, oui. Ça c'est très important. Vous le disiez, les températures chutent, on n'a pas chaud, on met une petite laine. Mais est-ce qu'on a pensé à mettre une petite laine à notre jardin?
Ah bah oui.
Eh bien, sans doute que non. Donc il faut mettre une petite laine, une petite couette sur la terre du jardin, et on met par exemple le vieux compost qui reste dans un coin qu'on n'a pas employé depuis 2 ans, 3 ans, les petits fonds de sacs de terreau, etc. On met ça sur le sol, on passe un petit coup de griffe ou un petit coup de binette pour couper les quelques plantes sauvages qui se sont développées, mais on les laisse sur place. Ensuite, on met du carton là-dessus. Mm-hmm. On s'arrange pour faire ça quand il pleut, parce que comme ça, le carton va bien s'imbiber d'eau.
D'accord.
Et donc, il va pouvoir bien coller à la terre, étouffer les plantes sauvages et puis se dégrader correctement après, correctement pendant l'hiver. Et puis dessus, on met une matière première qui est assez abondante, qui commence à l'être de plus en plus, c'est les feuilles mortes. Donc on met de la feuille morte là-dessus. On met après soit un filet si on en a, soit des branches, des bouts de bois pour empêcher que le premier coup de vent n'emporte les feuilles mortes. Et ça y est, le jardin, il a une bonne petite couette, il n'aura pas froid. Et comme ça, les petits vers de terre, toute la faune, la flore du sol vont pouvoir se développer. Ils vont avoir à manger parce qu'on leur a mis plein de carbone avec le carton et avec les feuilles mortes. Donc ils vont être au top au printemps et le jardin sera magnifique l'année prochaine.
Il va être prêt à passer à l'heure d'hiver, comme on dit. Philippe, on y va tout de suite pour découvrir les différentes questions ce matin.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et nous débutons avec François qui est à Saint-Quay-Portrieux. Bonjour François.
Bonjour Léo, bonjour Philippe.
François, vous avez des soucis avec un pied de vigne. Expliquez-nous.
Oui, j'ai acheté 2 pieds de vigne, un chasselas doré et un muscat de Hambourg, avec l'intention de les planter le long d'un mur exposé au sud. Et puis, avant de faire, je dis pourquoi je les mettrais pas dans la serre, qui est juste en face et qui les protège du vent. Mais je me dis que quand dans la serre, je cultive aussi des tomates, est-ce que l'ambiance va être bonne pour la vigne? Est-ce que j'ai pas de risque de propagation du mildiou? Voilà, j'ai cette hésitation la serre ou à côté, le long du mur.
Vous avez peur pour la cohabitation, en fait, entre les deux. C'est surtout ça. Alors, Philippe.
Alors, en fait, tout dépend de la taille de la serre. Mais si la serre est suffisamment grande... Combien vous dites ?
5 par 6,
c'est pas mal, ça devrait le faire. Parce qu'en fait, le milieu de la tomate et celui de la vigne, c'est pas les mêmes, déjà. Mm-hmm. Donc, il y a un truc qu'on fait qui est pas mal, c'est de laisser le pied dehors et de ne faire rentrer dans la serre que les branches, en fait, que les ceps, de façon à ce que toute la partie feuille soit donc bien protégée et de la chaleur, donc ça fait un bon raisin bien sucré. Et le fait d'avoir le pied vers l'extérieur, les racines vers l'extérieur, ça permet de ne pas avoir à arroser. La vigne va aller chercher elle-même l'eau dehors. Donc ça permet.
Tombe sur la serre, tombe au pied de la serre, et là, il y a beaucoup d'eau des fois.
Non, parce qu'en fait, la serre, donc c'est un tunnel plastique ou c'est une serre?
Oui, c'est un tunnel plastique.
Ouais. Donc le tunnel plastique, si vous avez correctement mis la bâche dans un trou et fait un retour de manière à ce qu'on mette de la terre dedans, que ça fasse un poids, eh bien l'eau qui tombe, elle tombe sur la bâche. D'accord. Et en fait, c'est l'eau, le maximum d'eau s'accumule là, mais va pas se mettre sur les racines de la vigne. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'en ai une depuis, ça doit faire au moins 12 ans que j'ai une vigne dans la serre et j'ai une très grande abondance de raisins tous les ans, beaucoup plus que ceux qui sont dehors.
Vous n'hésitez pas dans ces cas-là, François, à faire comme a dit Philippe, à les mettre dans la serre, ses pieds de vigne. Voilà, on a pu répondre à votre question ce matin. On vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche. À bientôt. Merci. Accueillons tout de suite Marie-Noël qui est avec nous. Bonjour Marie-Noël.
Bonjour Philippe, bonjour Léo.
Alors Marie-Noël, je vous laisse poser votre question à Philippe.
Voilà.
Alors.
D'accord, merci. Mais j'ai un laurier rose, qui n'a pas fleuri du tout encore. Et pourtant, au moment où je l'ai taillé, il a refait de très belles pousses. Mmh. Les hampes florales sont arrivées.
Oui.
Et puis voilà, j'ai eu deux boutons où j'ai vu effectivement qu'ils étaient bien roses. Mais même les boutons ne se sont pas ouverts.
Ah.
Alors, est-ce la terre? Est-ce moi qui ai fait quelque chose de...
Auriez-vous fait des bêtises, Marie-Noël?
Il est en pleine terre, ce laurier rose, ou il est dans un...
Oui, il est en pleine terre, et à côté, il y en a un blanc qui a fleuri, lui.
Alors, serait dû à quoi, peut-être?
Alors, c'est, de toute façon, la non-floraison dans la... plus grande partie, la majorité des cas, c'est un manque de chaleur. Alors, ce qui est étonnant, c'est que celui d'à côté est fleuri, parce que souvent, c'est parce que les terres sont trop fraîches. Il faut faire très attention quand on met un laurier rose en pleine terre. Je m'en suis aperçu à mes dépens, parce que moi aussi, j'ai eu un laurier rose qui a refusé de fleurir pendant moins de 4 ou 5 ans. Et c'est simplement parce que j'avais laissé le bon limon de mon jardin au pied de ce laurier rose, et qu'en fait, le limon est beaucoup trop lent à réchauffer au printemps et au début d'été. Donc, j'ai complètement changé le support pour faire quelque chose de très très léger, très sableux, très qui chauffe très très vite et très noir en plus, pour que vraiment ça chauffe le plus vite possible, et depuis il fleurit. Donc c'était vraiment une question de froid sur les racines. Il réchauffait pas assez vite, et du coup il se mettait en bouton fin août, et tous les boutons avortaient parce que il faisait,
c'est exactement ça.
Dès le début septembre. Donc c'était voilà. Donc souvent c'est tout bêtement ça. Donc il faut ressortir tout le monde, faire une belle fosse de plantation avec un drainage dans le fond du trou correct, et puis avoir un support très léger, très, vraiment, il faut être pratiquement à moitié de sable grossier, hein, du sable de rivière assez grossier, et puis en surface, un bon paillage très noir, un paillage, pas plastique, hein, évidemment, hein, un paillage naturel, mais très noir, un bon compost très très noir, le plus noir possible, parce que le noir piège la chaleur, donc les premiers rayons du soleil chauffent tout de suite jusqu'aux racines, et dans ces cas-là, la mise à fleur se met très très se fait beaucoup mieux.
Voilà.
Bah écoutez, je vais tenter la chose.
Oui, vous essayez, Marie-Noël.
J'espère que l'été prochain, j'aurai des buissons bien fleuris.
Ah bah c'est sûr, en plus, si vous avez celui qui est blanc juste à côté et celui qui est rose, ça fait un panaché de couleurs, ça doit être très joli. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Marie-Noël. Vous testez cela.
Bien, je vous remercie.
Merci, très belle journée à
Erki. Bonne journée à vous.
À bientôt, au revoir. Nous avons également Jean-Jacques qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Jacques.
Oui, bonjour monsieur.
Jean-Jacques, avec une question concernant un cèdre bleu, c'est cela ?
Oui, un cèdre bleu, donc, qui a une trentaine d'années, qui est très grand.
Oui.
Et les branches commencent à envahir la mitoyenneté.
Ah, et ça embête les voisins.
Donc, je voulais savoir si l'élagage est possible sans abîmer l'arbre.
Oui. Alors, comment le tailler, en fait, ce cèdre bleu? C'est peut-être cela, la question.
Alors, déjà, la réponse exacte de notre auditeur, je vais répondre non. À partir du moment où on taille, surtout sur un conifère, on va forcément déséquilibrer et abîmer la croissance de l'arbre. Mmh. Ça, là-dessus, il n'y a absolument aucun problème, malheureusement. Mmh. Donc après, on peut quand même intervenir, sachant que... Bon, il ne va pas aimer, et qui, voilà. Mais, et là, pour le coup, faut vraiment, si vous... voulez intervenir, faites intervenir un professionnel, un arboriste grimpeur, un arboriste en tout cas, quelqu'un qui a vraiment une formation d'arboriste et pas d'élagueur, c'est pas la même chose.
D'accord.
Les arboristes, ils travaillent avec l'arbre, parfois certains élagueurs travaillent contre l'arbre, donc voilà, on prend un arboriste, et puis comme ça, le travail est le mieux possible, et surtout dans le respect de la physiologie de l'arbre, hein, ce qui fait qu'il va être déséquilibré, mais beaucoup moins.
D'accord.
Ça sera moins moche, on va dire.
Et puis peut-être un peu moins, comment dire, violent pour lui aussi, comme vous le disiez.
C'est ça, c'est surtout aussi. Ça. Le problème, c'est qu'il puisse derrière... en général, les arboristes, quand ils interviennent, l'allure générale de l'arbre n'est pas atteinte.
D'accord.
Donc, voilà. Mais il faut savoir quand même que les cèdres n'aiment pas trop la taille, même si certains sont taillés.
Oui.
Mais en général, c'est pas très heureux.
Et puis, je suis sûr qu'en plus, il doit être magnifique, votre cèdre bleu, Jean-Jacques.
Oui, bien sûr. Oui.
Ah, donc, c'est pour ça que vous avez envie de le conserver. Bon, bah voilà, comme on le disait, n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès d'un arboriste.
Entendu. Pour très bien, je vous remercie.
Très belle journée à vous, très bon dimanche. À bientôt. 02 99 67 35 35, c'est le numéro de téléphone pour poser vos questions à notre jardinier Philippe Munier.
France Bleu Armorique. France
Bleu. Je suis sûr que vous êtes plein à avoir des questions à poser à notre jardinier France Bleu Armorique. 02 99 67 35 35. En attendant, voici Tom Dice et Elisa Tovati.
Il nous faut du temps. Des insomnies, des engueulades, des retrouvailles à la bougie. Il nous faut du vent, un peu de pluie, de longues balades. Et pas de bruit, non pas de bruit.
I know what you mean, thinking of us. We're in a bar, people are just looking at you as usually. And why do you care, is it too much? I need to know. If I'm needed, you and I, close together, a new dimension. But if we dare, we will succeed.
Il nous faut aussi un jean usé que l'on partage. Deux, trois secrets d'enfants passage. Il nous faut l'envie de rendez-vous, un très grand lit.
Elisa Tovati, Tom Dice, il nous faut sur France Bleu Armorique.
France Bleu.
C'était en direct sur France Bleu Armorique.
Il y a notre Morbihanais, il paraît que vous êtes chauffeur, livreur auprès des femmes, c'est ça?
Les fermes.
Ah, les fermes, ah oui, bien sûr. C'est moi qui ai mal lu.
Je pensais que c'était une blague.
Pardon.
France Bleu Armorique, écoutez, écoutez, on est bien ensemble. France Bleu et TF1 présentent Disney sur glace, la magie éternelle. Préparez-vous à vivre une expérience extraordinaire avec plus de 50 personnages Disney. Disney sur glace avec Mickey, Minnie, les princesses Disney et leurs princes, Woody, Buzz et Fourchette de Toy Story, le Roi Lion, Aladdin et tant d'autres. Disney sur glace, la magie éternelle, le spectacle événement. Du 11 au 22 décembre, au Zénith de Paris, puis en tournée dans toute la France. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu, Armorique.
France Bleu.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Comme chaque dimanche entre 9h et 10h, nous jardinons avec Philippe qui répond aux différentes questions. Et c'est vrai qu'eh bien avec ce changement de temps, les températures qui baissent, vous avez peut-être des questions concernant la saison hivernale qui va arriver à grands pas. Comme Yvette qui est avec nous. Bonjour Yvette.
Bonjour les garçons.
C'est gentil. Yvette, vous avez commencé, vous, à rentrer certaines plantes, notamment un citron.
C'est-à-dire que j'ai rentré mon citronnier, comme il a dit Philippe, et je voudrais... j'ai mis dans là où il était l'année dernière, dans un endroit bien éclairé, aéré, et j'aurais voulu savoir, pour l'entretien, disons, au point de vue amendement, qu'est-ce que je peux lui emmener? Il y a des citrons, qu'est-ce que je peux lui apporter à manger ou...
Pour le chouchouter un peu durant l'hiver, c'est ça?
Voilà, pour qu'il tienne le coup.
Alors Philippe?
Alors normalement, s'il a eu un petit apport régulier pendant toute la période, la belle période, on va dire, grosso modo, d'avril à maintenant, au mois d'octobre, normalement, il n'en a pas besoin pour l'hiver, parce qu'il a moins de lumière, la lumière est, même à l'intérieur, il a toujours un petit peu moins, puis en plus, les journées sont plus courtes, donc il a moins besoin de métaboliser, il a juste besoin de mûrir ses citrons. Donc normalement, de l'eau, de la bonne eau, alors pour le coup de l'eau de pluie, bien à température de la pièce avant d'arroser. Donc en général, on la met le soir pour arroser le matin ou l'inverse. Bref, on cuve l'arrosoir. Et puis, rien que ça, ça suffit. Par contre, ce qu'il faut, c'est être très, très régulier. C'est vraiment l'exigence parfaite des agrumes. C'est qu'il faut que le terreau soit toujours frais, jamais desséché, jamais détrempé, toujours frais. Ça, c'est vraiment le petit coup de main qu'on attrape quand on veut avoir des beaux citronniers ou des beaux orangers ou les kumquat et compagnie, toute la famille. Et si vous faites ça bien, qu'il a une température constante, une petite pulvérisation de temps en temps, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de cochenilles. Alors, il n'y a pas que des cochenilles farineuses, il y en a aussi les cochenilles à bouclier qui s'installent parfois, donc il faut regarder. On a l'impression que c'est juste des petits points noirs, puis en fait, c'est des petites babettes qui sont en train de boulotter la sève. Donc, faut surveiller ça. Mais normalement, effectivement, si c'est un bon endroit, bien aéré, pas trop chaud, beaucoup de lumière, il va passer l'hiver tranquille, il va vous mûrir les citrons, et puis il redémarrera dès le mois de février à refleurir, à moins qu'il soit peut-être même encore en fleurs maintenant. Et puis, il n'y a pas de souci.
Alors Yvette, est-ce qu'il est encore en fleurs là maintenant, dites-nous?
Non, mais par contre, c'est difficile parce que les citrons sont verts.
D'accord.
C'est des citrons verts.
D'accord.
Alors, comment savoir quand ils sont mûrs? C'est compliqué.
Alors, le citron vert, en fait, quand il est trop mûr, il commence à jaunir. Donc, mais quand il commence à jaunir, il est déjà trop mûr. Donc, en fait, le citron vert, il faut avoir juste une très, très, très légère pression entre l'index entre le pouce et l'index. Vous le pressez, mais très, vraiment très légèrement. Et vous sentez bien s'il est très dur ou s'il commence à se ramollir. S'il commence à se ramollir, il est mûr. Il est bon à accueillir.
Voilà, donc
surtout pas qu'ils jaunissent, sinon ils sont trop mûrs, ils sont beaucoup moins parfumés.
Si les citrons verts deviennent des citrons jaunes, ça va pas dans ces cas-là. Voilà. On aura retenu ça. Yvette, on vous souhaite une très belle journée dans le Morbihan. À bientôt.
Au revoir.
Jean-Luc nous a rejoint, il est à Donloup. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Jean-Luc, j'ai cru comprendre que vous avez fait refaire votre pelouse, mais vous avez quelques soucis.
J'ai écouté Philippe, ma pelouse est bien, mais derrière j'ai des zones où l'herbe est sèche, et pourtant j'ai passé le starificateur, et les graines ont du mal à passer à travers.
À passer à travers, donc il y a des zones où bien ça ne pousse pas.
Ça fait un mois que c'est fait, j'ai mis de l'engrais, au bout d'un mois, parce que là, devant elle est magnifique la pelouse.
D'accord, mais il y a des zones où ça ne pousse pas, donc c'est un peu ça, c'est que faire dans ces cas-là où ça ne pousse pas. Philippe.
Alors, ça peut être, dû à plein de causes, en fait. La qualité du sol, la quantité d'ensoleillement, rien que déjà, ces deux causes-là peuvent...
Vous avez dit, Jean-Luc?
J'ai mis du terreau, comme il m'avait conseillé, Philippe.
Comme vous avez dit.
Du compost, pas du terreau. Compost.
Du compost.
C'est pas pareil.
On va pas faire la même chose.
Non, le compost, le terreau, ça nourrit pas. Le compost, ça nourrit. Donc, faut pas tomber entre les deux. Donc, normalement, ça devrait pousser. Alors, après, c'était les mêmes graines partout?
Oui.
Même sac de graines. Donc il y a forcément un problème. Donc du coup, il faudrait peut-être faire un sursemis, parce qu'on est encore en bonne période pour semer du gazon maintenant. Donc ressemer sur les parties qui veulent pas pousser, et puis bien faire attention éventuellement de bien arroser, et surtout donc on sème, on met du compost, on roule et on arrose après.
D'accord.
Par contre, est-ce que je rate les parties? Parce que où ça se pousse pas, c'est des zones où l'herbe a séché.
Alors oui, dans ce cas-là, il faut bien les gratter. Oui, tout à fait, tout à fait. Avec un râteau ou avec une griffe à dents courtes, hein, on gratte bien énergiquement les zones et puis donc graines, compost et on roule.
Et voilà. Et ensuite
on arrose.
Et ensuite on espère avoir la pelouse qui va quand même être à peu près uniforme partout ou en tout cas qui va pousser partout parce que ça.
C'est ce qu'on souhaite. Ouais.
S'il y a des trous, ça fait un peu échiquier. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà donc les conseils, Jean-Luc. Merci. Très belle journée à Donloul. J'ai l'impression que vous êtes en voiture en plus. Bon courage sur la route et soyez prudent. Nous avons Christiane qui est à Fougères et qui nous a rejoint. Bonjour Christiane.
Bonjour.
Christiane, une question concernant les agapantes, c'est bien cela?
Oui, voilà, j'ai des agapantes à Granville et puis l'année dernière je les ai laissées en terre. Et cette année, elles n'ont pas fleuri. Mmh. Alors, je me demandais s'il ne fallait pas les mettre en pot pour l'hiver, les abriter dans un coin bien...
Peut-être les rentrer. Les rentrer pour l'hiver.
Voilà.
Alors Philippe, est-ce qu'il faut rentrer les agapantes pour l'hiver?
Oui, si on est en Auvergne ou en haut des Alpes, mais si on est dans le Cotentin, à Granville, non, évidemment, l'agapante doit...
Oui.
Elle doit pouvoir rester dehors tout l'hiver sans aucun problème. Hein. Juste au bord de la Manche, il y a le Gulf Stream qui passe par là. Donc non, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui peut s'être passé, comme sur Granville, vous êtes sur des sols qui sont très légers, très sableux, il peut y avoir un problème de nutrition de la plante et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu fleurir parce que les agapantes sont des grosses gourmandes. Donc faut pas hésiter à faire un apport. Alors déjà maintenant, à partir de maintenant surtout en plus là. Le froid commence à s'installer, on les paille bien avec des feuilles mortes ou de la paille toute bête, hein, toute simple. Mmh. Et puis au printemps, on va dire, quand on voit les feuilles qui se regarnissent, hein, qui redémarrent, donc en général, on est à la troisième semaine du mois d'avril, on voit que la végétation redémarre. Là, on apporte un très bon compost, mais il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Hein, c'est une plante gourmande. Pour être belle, la agapante, il faut qu'elle mange. Hein, et qu'elle ait de l'eau aussi. Hein, donc, faut faire très attention. Et du coup, les sols très drainants que vous avez effectivement sur... sur le Cotentin, ils gardent beaucoup moins l'eau, donc faut pas hésiter à raccorder, par exemple, déjà à récupérer les eaux de pluie et puis arroser l'eau de pluie. Et dans certains cas, j'ai même vu des gens qui raccordaient directement la gouttière sur les massifs du jardin. Donc comme ça, à chaque fois qu'il pleut, ils ont pas besoin de se fatiguer, l'arrosage est automatique.
Et puis, et Christiane, dans le Cotentin, comme en Bretagne, c'est vrai que l'eau n'est pas une denrée rare. On est bien d'accord.
Il faut faire attention.
Quoique, je dis une bêtise, puisque cet été, quand même, on a eu un peu du beau temps et beaucoup de sécheresse. Bon, voilà, Christiane, donc pour
donc, je les laisse en pot, je les laisse en terre, alors.
Vous les laissez en terre, a priori, d'accord. Puis vous les laissez comme ça.
Mais il faut bien leur donner à manger et à boire.
Ouais, voilà, faut qu'elles soient nourries. Voilà, Christiane, on vous souhaite une belle journée. Bon dimanche, à bientôt, au revoir. 02 99 67 35 35. Nous sommes encore pendant une petite demi-heure avec Philippe Munier, notre jardinier, qui répond à toutes vos questions.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et en attendant vos différentes questions, voici tout de suite Simply Red sur France Bleu Armorique. Baby!
Thinking of you.
Simply Red qui revient avec ce nouveau titre et qui nous donne la pêche ce dimanche sur France Bleu Armorique. France Bleu.
Une minute pour l'environnement.
En Bretagne, des citoyens, des associations, des collectivités prennent des initiatives pour l'environnement. Je vous raconte chaque jour leurs actions, l'actualité, les bons gestes, les sites naturels protégés et les idées pour un avenir durable. La Minute Environnement, du lundi au vendredi à 9h45 et 14h45, le week-end à 7h45 et en podcast sur francebleu.fr.
La Minute Environnement sur France Bleu Armorique avec Bruno Gollin.
Wow, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant?
Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service, Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers. Optique 2000! Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
On a tendance à penser que pour être mieux protégé, il faut payer plus. C'est une erreur. À partir du 1er novembre 2019, avec la nouvelle complémentaire santé solidaire, l'accès aux soins médicaux pour tous n'a jamais été aussi large, aussi simple et si peu coûteux. C'est un vrai progrès.
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, rendez-vous sur amélie.fr pour faire une simulation ou appelez le 0800 971 391 du lundi au vendredi. L'assurance maladie. 0800 971 391, service et appel gratuit.
France Bleu Armorique.
France Bleu.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons quand même gagné une heure cette nuit. Autant utiliser cette heure pour aller jardiner, et ce, avec les bons conseils de Philippe. Vous pouvez nous appeler 02 99 67 35 35, comme Yvonne qui est à Bru et qui est avec nous. Bonjour Yvonne.
Bonjour Léo et bonjour Philippe.
Alors Yvonne.
Je voulais demander un petit conseil à Philippe au sujet d'une plante Dipladenia. Mm-hmm. C'est une plante qui est sur une tombe. Et puis, elle a eu beaucoup de mal à démarrer cet été avec la chaleur. Et maintenant, elle est superbe. Elle est pleine de fleurs, des boutons, bien vertes et tout. Et donc, elle va être remplacée par des chrysanthèmes. Mais je voudrais bien essayer de savoir comment on pourrait la conserver cet hiver, quoi.
La garder, la conserver.
Oui, voilà. Mm-hmm. Ouais.
Alors, Philippe.
Alors, il ne faut pas oublier que le dipladénien, qu'on appelle aussi mandevilla, c'est une plante originaire du Brésil. Donc, c'est une plante tropicale, donc il faut la rentrer. Il faut absolument la rentrer et effectivement profiter du remplacement par les chrysanthèmes ou d'autres plantes. On peut mettre des cyclamènes aussi qui tiennent relativement bien à cette période-ci. Et rentrer donc le dipladénien en le mettant donc dans un endroit exactement comme le citronnier tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des plantes qu'il va falloir mettre en orangerie, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, ça s'appelait dans les grandes demeures. Donc un endroit qui soit suffisamment lumineux, qui ne soit pas trop chaud. Donc très lumineux, pas trop chaud. Et donc là, la plante, on va la mettre un peu au repos pendant tout l'hiver, c'est-à-dire des arrosages légers. Et du coup, elle va continuer à fleurir normalement. Hein, on peut avoir des dipladéniens en fleurs à Noël sans problème. Et on peut, au lieu de faire couper, ou d'acheter un sapin coupé, faire un dipladénia de Noël. J'en ai vu des très très beaux, hein, parce que c'est une liane en fait, donc au bout de 2-3 ans, si on lui fait un joli support en bois, en bambou, on peut faire plein de choses sympathiques, elle peut monter à 1m20, 1m50 sans aucun souci, et du coup elle se couvre de fleurs, c'est tout à fait superbe. Donc n'hésitez pas à la rentrer, et je vous dis, lui faire passer l'hiver, vraiment avec beaucoup de lumière, et si possible pas trop de chaleur. Donc l'idéal c'est autour de 15 degrés, entre 15 et 20, mais 20 maxi quoi. 19 c'est pas mal, donc 19 c'est aussi ce qu'on conseille pour nos organismes à nous, donc ça tombe bien.
Et combien d'arrosages à peu près, s'il vous plaît?
Et c'est là où il faut avoir la main légère, c'est-à-dire que le sol doit jamais dessécher complètement, sinon elle va mourir, mais par contre il faut que les arrosages soient très parcimonieux pour qu'elle se repose, donc à la louche, hein. Une fois par semaine, c'est largement suffisant. On peut même descendre.
Hein, ah ouais,
mais après, tout est question de quantité d'eau, combien vous mettez. Tout est question de la qualité du support. Si c'est un support qui garde beaucoup l'eau, ça sera peut-être qu'une fois tous les 15 jours. Si c'est un support qui est au contraire très poreux, ça sera peut-être que tous les 4 ou 5 jours. Donc il faut vraiment. Il y a plein de paramètres qui font qu'on ne peut pas dire c'est une fois par semaine et puis tac. Hein,
il faut jauger.
Ça dépend vraiment de la. Voilà, il faut mettre le doigt dedans. Il ne faut pas avoir peur de rentrer le doigt dans la terre.
Oui, hein, d'accord. C'est pas un dipladénia qui pousse, comme vous dites en terme. Le mien, il est plat. Il est dans une jardinière.
Oui, mais que c'est la première année.
Comme un petit arbre, quoi. C'est pas ça.
Moi, c'est pas des petits arbres, j'ai dit une liane. Hein. C'est pas un arbre, c'est une liane.
Justement, elle a plein de petits machins, de petites lianes, je sais pas qui. Qui se jettent, quoi. Elle s'accroche à plein d'autres trucs qui sont sur la tombe, quoi. Ça fait mal au cœur de la perdre cette année parce que vraiment.
La perdez pas, rentrez là à la maison et profitez de sa floraison. Ça fleurit quasiment toute l'année, ce truc-là.
Oui, mais l'année dernière, par contre, parce que je prends toujours au même endroit et toujours une jardinière, l'année dernière, je l'ai perdu par contre. Le bois s'est desséché, tout est devenu sec. Je l'avais rentré aussi à cette période en me disant, je vais pouvoir quand même peut-être la garder. Et puis non, je suis obligée de jeter en printemps.
Elle a eu trop chaud, sans doute. Il faut faire attention. Hein. C'est vraiment, il faut les mettre au repos. Donc, c'est vraiment beaucoup de lumière et le moins possible de chaleur. Et surtout, ne pas oublier que c'est des plantes de forêt tropicale. Oui. Et que sous les tropiques, la forêt, elle est très humide. Donc, il faut pulvériser de l'eau, peut-être pas tous les jours, mais au moins un jour sur deux. Il faut créer une espèce de petite bulle d'humidité autour de la plante. Et dans ces conditions-là, elle ne va pas dessécher, justement. Mais parce que dans nos intérieurs, les intérieurs sont en général beaucoup trop secs. Oui. Même trop secs pour nous, d'ailleurs. Dans la plupart des cas, donc il faut autour des plantes, au moins dont les orchidées, toutes les plantes tropicales en fait, qui vivent dans un milieu très humide en permanence, il faut leur mettre de l'humidité. Il ne faut pas avoir peur d'acheter un bon petit pulvérisateur et pulvériser de l'eau de pluie évidemment et à température de la pièce évidemment aussi.
Voilà donc Yvonne les quelques conseils pour pouvoir conserver ce dipladénia et on vous souhaite une très belle journée à Bru. Accueillons maintenant Philippe Thérèse qui est avec nous. Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour.
Marie-Thérèse, on vous laisse poser votre question à Philippe.
Alors moi, c'est au sujet d'un cognassier. Alors cette année, donc il a été chargé de fruits et donc les fruits, certains ont bien réussi à mûrir, mais alors les autres, il y en a encore dans l'arbre et il était tellement chargé, il y a des branches qui se sont cassées mais qui sont toujours pendues à l'arbre. Et puis en plus. Au printemps, vers le printemps, là, début de l'été, je m'étais aperçue que le tronc, il pelait aussi. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut,
Qu'est-ce qu'il faut faire de mon cognacier? Est-ce qu'il faut que je m'en sépare ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire et quand est-ce qu'on peut le tailler ou...
Docteur, est-ce que vous avez une réponse, Philippe?
Oui, j'ai une réponse qui pourrait être longue, mais donc je vais essayer de faire courte. Grosso modo, le cognacier, c'est une plante qui réussit plutôt bien en Bretagne si on fait très attention à deux maladies dessus. Un, la tavelure, et deux, la moniliose, qui sont deux champignons qui attaquent dès le redémarrage de la végétation, donc quasiment, on va dire, début mi-mars quasiment, hein, l'un comme l'autre, ils rattaquent tout de suite. Donc il faut vraiment faire du traitement préventif. Alors ça peut être tout simplement avec... avec du purin d'ortie ou éventuellement un petit peu de bicarbonate de soude. Ça peut être avec la bouillie dont j'ai parlé plusieurs fois à base d'huile essentielle de sarriette. Bon, c'est des produits de prévention qui sont tout à fait efficaces et qui permettent de limiter l'attaque de tavelure et de moniliose. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il fait de plus en plus chaud l'été en Bretagne et les arbres n'ont pas l'habitude, donc il faut les protéger. Et la protection, c'est soit du blanc arboricole, parce que le blanc, ça rejette la chaleur, hein, ça reflète les rayons du soleil, donc ça empêche de trop chauffer le tronc, parce que les arbres prennent des coups de soleil, et du coup, régulièrement, en fin d'été, on voit tout d'un coup un arbre qui pend, qui se met à peler de partout, c'est souvent qu'il a pris trop de lumière, donc si on le passe dès le début du printemps, au mois de mars, avec du blanc arboricole sur le tronc et les branches principales, on le protège correctement, et puis le cognacier, c'est l'un des derniers arbres à mûrir ses fruits. Donc, il faut vraiment bien l'entretenir pendant toute la durée de la préparation des fruits, avec régulièrement, une fois toutes les 3 à 5 semaines, en fonction de la météo, des pulvérisations. Donc, les mêmes, soit du purin d'ortie, soit purin d'ortie plus bicarbonate de soude, soit la bouillie à l'huile essentielle de sarriette, qui vont permettre de protéger pendant toute la période de végétation l'arbre contre les attaques de champignons, et ce qui fait qu'au bout du compte, vous aurez des belles récoltes et l'arbre ne sera pas dans l'état où il est maintenant. Donc pour l'instant, moi je dirais plutôt, pour répondre directement à votre question, gardez-le encore un an, mais faites attention à bien vous en occuper. Et si dans un an, il est toujours il a toujours beaucoup de problèmes, là il faudra peut-être réfléchir autrement.
Voilà.
À mon avis... Ça devrait marcher.
Ça devrait marcher, les conseils de Philippe, pour ensuite eh bien avoir tous les coins, pouvoir en faire de la gelée, de la marmelade. Je suis sûr que Marie-Thérèse... Non,
mais c'est pour ça que les fruits, en fait, quelquefois, ils pourrissent dans l'arbre.
Vous avez... Et ça, c'est la moniliose. C'est pour ça que je parlais de la moniliose. Voilà. Alors et puis souvent les coins aussi, ils ont des grosses taches brunes dessus, ça c'est la tavelure. Oui. Donc les deux champignons les plus agressifs pour un cognacier, c'est la tavelure et la moniliose. Donc, c'est ces deux-là qu'il faut traiter. Et ça tombe bien, parce qu'il y a des traitements tout à fait naturels, efficaces, contre ces cochonneries de champignons.
Voilà donc, Marie-Thérèse, pour ensuite pouvoir profiter de vos coins. On vous souhaite une très belle journée à Chavagne et à très bientôt sur France Bleu Armorique. Solange nous a rejoint. Bonjour, Solange.
Bonjour.
Alors, Solange, on va parler de chêne. Expliquez-nous ce qu'il y a.
Eh ben, je suis dans un lotissement depuis récemment. Au moment de la construction de la maison, j'ai des chênes en bordure de mon terrain donnant côté du champ exploité. Et je les ai fait élaguer pour la construction de la maison. Et donc, c'était il y a 3 ans.
Oui.
Et là, cet été et puis au printemps, là, j'ai eu beaucoup de petits rejets qui sont le long du tronc. Et j'ai un gros dilemme. Je ne sais pas si je les laisse ou s'il faut que j'éclaircisse les troncs.
Que faire? Que faire? C'est vraiment la question ce matin que vous posez à Philippe.
On peut les laisser sans problème. Ça ne pose aucun problème à l'arbre. Au contraire, vu que vous avez enlevé un gros volume de feuilles en faisant faire des lagages, il recrée ce volume de feuilles en refaisant plein de petites pousses sur le tronc. Donc après, esthétiquement, ça peut vous gêner. Et dans ce cas-là, vous pouvez les enlever. Ouais. Ça ne fera pas de mal à l'arbre. Mais par contre, vous pouvez complètement les laisser. Traditionnellement, ni les vilaines d'ailleurs, les élagages se faisaient. On ne laissait plus qu'un totem et l'arbre reprenait sur que des petites branches comme ça qui poussaient sur le tronc. Et souvent, c'était coupé pour donner à manger aux bêtes, hein, quand il y avait des problèmes d'alimentation, des problèmes dans les champs. Donc, traditionnellement, on trouve, dans une grande partie lividienne, ce type de délagage. Donc, soit vous laissez, soit vous enlevez, il n'y a aucun problème pour l'arbre. Lui, ça ne le gênera pas. C'est plus l'élagage qui a dû le gêner parce qu'il a dû être sévère.
Ah bon ? Oh, pourtant, pas tant que ça. Il a été un peu étêté, puis éclairci, juste pour permettre la construction de la maison, que ça... Et puis en prévision de la présence de la maison, quoi.
Mmh. Mais non, c'est bien par contre d'avoir gardé les arbres, ça c'est super parce que. C'est
ah, bah oui. Ah bah oui, souvent... je vous écoute souvent et je voulais absolument les garder, mes chênes. Bon, par contre, les glands, c'est un sacré entretien.
Mmh. Oui, oui. Vous les ramassez, puis vous essayez de trouver quelqu'un qui fait de l'élevage de dindes. Les dindes adorent les glands.
Tiens, voilà, donc on pourra mettre ça.
Ah, j'ai pas pensé à l'élevage de dindes. J'ai proposé autour de moi, mais ils n'étaient pas intéressés. Mmh. C'était plus cochons et vaches. Mais
les dindes. Pas,
mmh. Eh ben oui, pour ça, là, dans ces cas-là, Solange, ça peut être une bonne solution. Comme ça, eh bien, rien ne se perd. Tout se transforme.
Vous nourrissez une dinde avec les glands de votre jardin et vous la faites rôtir pour Noël. Hein,
eh ben voilà, exactement. Les bons conseils cuisine de Philippe par la même occasion. Voilà, Solange,
merci
les
beaucoup.
Quelques conseils. À très bientôt
bon
sur France Bleu Armorique. On va retrouver Philippe Munier d'ici quelques instants sur France Bleu Armorique. On continue de parler de jardin encore pendant une dizaine de minutes.
Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur. Maladresse de facteur aspergé de parfum, rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Le tact d'assumer mes sépas, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux battre Newton car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche quand je l'ai reconnue. J'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut.
Renan Luce et la lettre sur France Bleu Armorique.
France Bleu, partenaire de Olivia, la nouvelle série événements sur TF1. Après La Vengeance aux yeux clairs, Laetitia Milo reprend le rôle d'Olivia Alessandri. Pour Olivia, un seul objectif, défendre les causes perdues et faire que justice soit rendue. Cette semaine, ce sont de lourds secrets de famille qui vont être au cœur des deux affaires qu'elle défend et qu'elle entend bien mener à leur terme. Olivia, avec Laetitia Milo, jeudi 31 octobre sur TF1 à 21h05, avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Les éditions Radio France présentent Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Comment le mythe de la sorcière a-t-il évolué à travers les âges? Fascinante et attirante pour certains, dangereuse et maléfique pour d'autres. Autrefois crainte et persécutée, aujourd'hui savante et indépendante. Une histoire de femme dont les pouvoirs dérangent. Les Sorcières de Céline Duchesnay, un livre illustré, coédité par France Culture.
Parce que la vie n'a pas de prix, la chaîne de l'espoir se bat depuis plus de 20 ans pour le droit à la santé et à l'éducation des enfants de pays défavorisés. Si notre pari sur l'avenir devient une réalité, il reste encore beaucoup à faire. Parce que les enfants sont notre avenir, vous pouvez choisir de faire un leg ou une assurance vie à la chaîne de l'espoir. Ensemble, agissons pour que notre investissement pour la vie soit une victoire.
Pour demander notre documentation, appelez Annick, responsable leg, au 01 44 12 66 80. 01 44 12 66 80. Prix d'un appel local.
France Bleu Armorique. France Bleu. Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Encore pendant quelques minutes avec Philippe et Natacha qui est à Saint-Malo et qui nous a rejoint. Bonjour Natacha.
Bonjour à tous les deux et merci beaucoup pour votre émission.
Ah bah écoutez, ça fait plaisir d'avoir ce retour-là. Natacha, je vous laisse poser votre question rapidement à Philippe.
Très facile. J'ai dans mon jardin chênes et puis surtout pin. Mmh. Le pin fait tomber très très régulièrement des aiguilles sur la pelouse. Je les ramasse pratiquement tous les jours.
Oui.
Est-ce que je peux les récupérer ou est-ce qu'elles doivent aller tout simplement à la déchetterie?
Ah, que faire de ces aiguilles de pin? Est-ce qu'on peut peut-être les recycler en autre chose, Philippe?
En paillage, puisque comme disait Philippe, on entretient son jardin juste au début de l'automne. Est-ce que je peux m'en servir en paillage?
Alors Philippe...
Alors la réponse est oui, oui et oui, évidemment. Tout ce qui est construit, fabriqué par votre jardin, ne doit surtout pas aller en déchetterie. C'est appauvrir son jardin. La déchetterie ne devrait pas exister si les jardiniers faisaient attention à ce qu'ils font de ce que leur jardin leur fabrique.
D'accord.
Donc tout ce qui est fait dans le jardin doit rester dans le jardin, donc les aiguilles de pin aussi. Par contre, il faut faire attention, les aiguilles de pin sont acides, donc il faut les mettre qu'en paillage pour des plantes qui aiment l'acidité. Ça tombe bien en Bretagne, on aime plutôt les camélias, les rhodos, les gaultéries, les daphnées. Tout ça, ce sont des plantes de terre acides, donc on peut sans problème pailler tous ces endroits-là. Alors, agapanthe, c'est un petit peu moins pour le coup. Vaudrait mieux de la paille ou un très bon compost. Hein, parce que c'est gourmand et que pour le coup, les aiguilles de pin, c'est pas très riche. Donc, l'agapanthe, pensez plutôt mettre direct du compost ou de la paille.
Oui. Hein.
Mais par contre, pour tout le reste, ça va sans aucun problème. Et puis, si vous faites des fraises dans un coin du jardin, eh ben, paillez des fraises avec les aiguilles de pin parce que les limaces détestent les aiguilles de pin et que les fraises adorent l'acidité.
Voilà. Et ben voilà. Et en plus, c'est super bon après de manger des petites fraises, de faire des confitures.
Ah,
moi j'adore ça, vous voyez.
Bon, maintenant, il n'y en a plus trop quand même.
Oui, quand même, je suis d'accord.
Il y en a encore un petit peu, mais elles sont moins bonnes, hein, franchement.
Voilà, Natacha. On vous souhaite une très belle journée à Saint-Malo. À très bientôt sur France Bleu Armorique. Au revoir. Philippe, comme à chaque fois que nous terminons notre rendez-vous jardin, vous avez pour nous quelques petits conseils. Je crois qu'il y a une fête bien sympathique en ce dimanche.
Absolument. Ça devient un petit peu une fête. Modèle, on va dire, c'est la fête des jardins au château de Pomoriau, à Trévenoc, à côté de Saint-Quay-Portrieux, à côté donc pas loin de Saint-Brieuc. Mm-hmm. C'est vraiment une très belle fête avec des intervenants très intéressants. Hier, il y avait une conférence absolument extraordinaire de Didier Willery sur le qui s'appelait « Auprès de vos arbres, vous vivrez heureux ». Et je suis bien content parce qu'aujourd'hui, on a parlé d'arbres oui. et de gens qui voulaient utiliser leurs arbres ou ne pas leur faire du mal. Donc, c'est super. L'arbre, enfin, commence à être reconnu comme étant un être intéressant dans le jardin. Et c'est, on n'abat pas systématiquement dès qu'on construit. Donc, c'est super. Et donc, la fête est magnifique. 3 euros l'entrée, ça vaut le coup d'y aller parce qu'il y a vraiment du très, très, très beau végétal. Il y a vraiment des grands spécialistes, des grandes collections. Donc, ça vaut le coup d'y aller. Si vous avez le temps, allez encore y faire un petit tour. Même s'il pleut, on met le ciré, faites attention, il y a du vent. Alors, prenez pas forcément le parapluie. Hein, voilà.
Exactement.
Un petit ciré des bottes. et puis, on est parti faire un petit tour là-bas. Et vous reviendrez forcément avec des belles plantes.
Et des bonnes idées. Au château de Pomorio, avec cette fête des jardins dont on a eu l'occasion, bien sûr, de parler sur France Bleu Armorique. Mais n'hésitez pas à y aller ce dimanche. Philippe, on vous souhaite d'ailleurs un très bon dimanche et on vous retrouvera dimanche prochain à partir de 9h.
Ah bah si tout va bien, ça se fait comme ça.
On fait comme ça. Allez, salut Philippe.
Salut Léo.
Nous sommes le dimanche 27 octobre, il est tout juste 10h sur France Bleu Armorique. France Bleu Armorique. 10h, les informations. François Rosier à Saint-Malo, les proches du jeune Denis réclament justice.
Denis avait 16 ans lorsqu'il est mort suite à une agression devant le CFA d'Ocaloc dans les Côtes d'Armor en juin dernier. Une expertise médicale a conclu que le jeune homme était mort d'une rupture d'anévrisme et non pas des coups reçus ce jour-là.